France Musique. Musicopolis. Miles Davis, chapitre 5, la fusion. Les années 60 ont été une décennie bouleversante, au sens où elles ont tout bouleversé. La société, les rapports sociaux, la politique et même la musique. Les rapports entre les générations ne sont plus les mêmes. Les adolescents et jeunes adultes ont revendiqué et désormais c'est leur musique qui fait la loi. Le gâteau, qui se partageait auparavant entre variété, jazz et classique, est à présent dévolu principalement au rock, à la pop, au rhythm and blues, etc. La bande-son des années 60 ne ressemble en rien à celle des années 50. Loin de rester cantonné à ce qu'il a fait au début des années 60, Miles Davis écoute le nouveau son qui sort des haut-parleurs à la fin de la décennie. Il s'intéresse à tout ce qui sort, en particulier au funk et aux nouvelles musiques noires. Il veut essayer à son tour, il commence à introduire des instruments électriques dans sa musique. L'album Miles in the Sky, sorti en 1968, fait entendre Herbie Hancock sur un piano électrique et Ron Carter sur une basse électrique. Le son du groupe en est totalement transformé. Et Miles Davis ne va pas s'arrêter là, il est bien décidé à passer, en général, à l'électricité. On dit que cette transformation aurait été poussée aussi par les dirigeants de la Columbia, qui auraient donné une sorte d'ultimatum à Miles. Tu passes à l'électrique ou tu t'en vas. Dave Brubeck avait reçu le même genre d'injonction et il avait quitté le label. Mais Miles est très endetté, il s'est donc branché à l'électricité et il a signé pour 2 albums par an. Avec l'album In a Silent Way, Miles Davis innove dans plusieurs domaines. Le son électrique, bien sûr, et aussi le fait que chaque plage du 33 tours laisse se dérouler un morceau sur toute la durée. Et puis le caractère de musique planante est nouveau lui aussi, et la manière dont la musique se répète par petites cellules. Mais on constate aussi une autre nouveauté, c'est la place très importante prise par le producteur de la Columbia, Théo Macero. Son rôle est d'éditer les morceaux, d'en produire une réalisation définitive. Il va se servir des nouvelles techniques de montage et de mixage pour revoir les bandes et parfois en transformer complètement le fil. On ne connaîtra sans doute jamais la part exacte du travail de Macero dans la réalisation des disques de Miles Davis. Elle est certainement très importante, même si Miles a toujours souligné qu'il était lui-même à l'origine des idées développées. Il introduit d'ailleurs sur les pochettes de ses albums les mots « Direction en musique, Miles Davis ». Dans l'album « In a Silent Way », Miles Davis a fait jouer de nouveaux musiciens de la jeune génération. Le guitariste John McLaughlin, le pianiste Chick Corea, le bassiste Dave Holland et le pianiste organiste et arrangeur Joey Zawinul. Pour l'album suivant, « Bitches Brew », enregistré en août 1969, il convoque 13 instrumentistes. À la formation de quintet, Miles ajoute deux batteurs, un percussionniste, une guitare et une guitare basse, une clarinette basse et deux pianos électriques. C'est un environnement riche pour la trompette et aussi tout à fait enrichissant pour le trompettiste. Pendant l'enregistrement de Bitches Brew, en août 1969, Miles a fait une entorse à sa règle habituelle. Il a amené avec lui son épouse Betty. D'une génération plus jeune que lui, mannequin, elle est dans le temps présent, et même en avance sur son temps, et elle gravite dans les milieux de la contre-culture. C'est elle qui fait écouter à Miles les nouveaux groupes comme Sly and the Family Stone, ou qui lui présente Jimi Hendrix. Elle le relook aussi. Et lui, qui en a assez des costumes sobres des jazzmen, va se mettre au caftan, aux lunettes de soleil, aux pantalons pattes d'eff et aux chemises de soie. C'est une influence considérable sur Miles, même si le couple va divorcer un an plus tard. Miles dira que Betty était trop jeune et sauvage pour lui. Quoi qu'il en soit, Bitches Brew va justement convaincre un public jeune et se vendre à près de 500 000 exemplaires. Thank you. Après Beaches Brew, Miles Davis est vraiment investi dans le jazz rock ou jazz fusion, qui, comme son nom l'indique, fusionne des éléments venus de divers horizons. Pour Miles, le funk, représenté notamment par James Brown, est la nouvelle musique du peuple noir. En 1970, il est enchanté lorsqu'on lui demande de faire la musique pour accompagner un documentaire sur Jack Johnson, le premier boxeur noir à avoir obtenu le titre de champion du monde poids lourd. Miles est boxeur lui aussi, et comme Johnson, il aime les voitures rapides. Le jour de l'enregistrement, alors que Miles est en régie à discuter avec Théo Macero, qu'il ne se passe rien en studio, les musiciens s'impatientent. John McLaughlin se met à jouer un boogie en studio, suivi par les autres. Soudain, la lumière rouge des micros s'allume et Miles arrive en courant dans le studio avec sa trompette. On enregistre. À 44 ans, en 1970, Miles Davis est toujours à la pointe de la nouveauté musicale. Il continue à expérimenter, à découvrir de nouveaux musiciens. Il aime toujours la trompette et il éprouve un inextinguible besoin de jouer. En 1972, il annonce qu'il veut essayer cette chose funky, cette musique de taverne, de bar, sur laquelle les gens dansent le vendredi soir. Il veut entrer en contact avec le jeune public noir. Il enregistre l'album « On the Corner ». Curieusement, il s'est inspiré de méthodes de composition venues de la musique de Stockhausen, à mille lieues donc de la musique funk. Il a travaillé avec Paul Buckmaster, un jeune violoncelliste anglais qui lui a fait découvrir beaucoup de musique, y compris les suites pour violoncelle seule de Bach. Buckmaster raconte qu'il a écrit plusieurs mélodies à la demande de Miles. Le jour de l'enregistrement, à la répétition, les claviers jouent ces différentes phrases et les transforment. Miles demande aussi à Buckmaster de chanter pour les musiciens les différentes parties, de basse, de batterie. Et avant même qu'il ait complètement terminé, Miles lui dit « Ok, ça suffit ». Il claque des doigts, il bat la mesure et la musique commence. Lui-même joue avec une pédale wah-wah. Il donne des indications par des gestes, du corps ou des bras. Lorsqu'il veut un changement de rythme, il le signifie par un haussement d'épaule caractéristique. Au bout d'une heure et demie, il dit « Ok, ça suffit, allons écouter ». Tout l'album est là. Thank you. À l'automne 1972, la sortie de l'album On the Corner de Miles Davis se passe bien. Les critiques sont élogieuses et les ventes montent à 50 000 exemplaires la première semaine. Des dates sont bouclées pour la promotion, mais début octobre, Miles a un accident de voiture et il se casse les deux chevilles. Les années suivantes, il va néanmoins continuer à tourner, à enregistrer quelques plages. Mais c'est trop dur, il souffre. Sa santé décline, il s'automédique, il se drogue. Et en juillet 1975, après avoir joué au festival de Newport, il s'enferme chez lui et il annule tous ses engagements. Il va rester prostré là jusqu'à la fin de la décennie. Jusqu'à ce que sa sœur Dorothy et son ex-compagne Cicely fassent en sorte de débarrasser la maison de tous les parasites qui l'encombrent et de le remettre sur pied. Miles recommence à travailler sa trompette et en 81, il remonte sur scène. Après les premiers concerts de 1981, vont suivre quelques enregistrements de studio. Miles Davis a engagé de nouveaux musiciens, tous dans leur petite vingtaine. Comme il l'a fait par le passé, il continue à découvrir de nouveaux talents, dont il apprend autant qu'il leur apprend. Le premier morceau de l'album We Want Miles, enregistré en concert, est intitulé Jean-Pierre. On reconnaît la comptine Dodo l'enfant d'eau. Le retour de Miles Davis sur la scène et dans les studios à partir de 1981 est salué par le public. Il est LA grande légende vivante internationale. Il continue à s'intéresser à ce qui se passe de nouveau en musique. Il s'inspire de Michael Jackson, de Cyndi Lauper ou de Prince. Pendant les années 80, une demi-douzaine d'albums vont sortir, notamment Tutu en 1986, en hommage à l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. Album grâce auquel Miles va obtenir le Grammy Award du meilleur soliste de jazz. We'll be right back. En juin 1991, le journaliste Francis Marmande est à New York pour interviewer Miles Davis. Trois mois après, Miles meurt en Californie à 65 ans, après un mois d'hôpital, l'organisme affaibli par diverses maladies. « Tu veux savoir ce que j'ai apporté ?» avait demandé Miles au journaliste. « Rien. J'ai simplement changé 5 fois le cours de la musique. » Solea, un thème de Gil Evans, joué ici par Miles Davis à la trompette, de Gil Evans Orchestra, de George Jones Concert Jazz Band, sous la direction de Quincy Jones. Cet extrait du live à Montreux, enregistré le 8 juillet 1991. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Mercher pour le mixage, Max James pour la réalisation et Élise Kravetz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.